en air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Nous avons deux invités aujourd'hui. Bonjour Marc, bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons débattre avec des acteurs de l'écologie, avec des acteurs locaux et nationaux. Mais ce qui motive avant tout notre démarche et le choix de ce thème d'émission, c'est une certaine volonté de vivre autrement sur le territoire d'Evreux, de contribuer au changement pour ne plus entendre « ailleurs c'est mieux ». Et oui, pourquoi Evreux ne pourrait pas devenir Portland ? Oh, c'est ambitieux, hein, vous. Je l'admets. Mais Portland et ses milliers de pratiquants de la petite reine, 10% des déplacements s'effectuent à vélo, sur plus de 400 km de voies réservées au vélo, ses marchés bio quotidiens, ses producteurs à moins de 100 km, ou bien Fribourg et son quartier Vauban, avec ses maisons à énergie positive, ou encore plus modestement et localement, Montdidier, son autonomie énergétique, mais nous y reviendrons. Il ne s'agit nullement de défendre des positions politiques. Je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas donnés comme mission d'évangéliser. D'ailleurs, nos permanents nous ont mis en garde. Pas de prosélytisme, de la pondération, du droit de réponse. Il ne s'agit pas non plus d'instituer une sorte de confessionnal pour vous libérer de votre sentiment de culpabilité, même si cette idée n'est pas inintéressante. De même, ne vous attendez pas à recevoir des conseils, des trucs, même si nous avons dans notre besace, en lin, bio, de préférence, quelques exemples qui méritent une certaine attention. On a repéré une fabrication de savon à partir de graisse de merguez. Ça peut toujours intéresser en temps de crise. Nous franchirons aussi la frontière de ce beau pays vert qu'est l'écologie et où fleurissent les utopies. Nous essaierons de rencontrer ceux pour lesquels la récup, le réemploi n'est pas un geste écologique volontaire, mais une nécessité économique. Notre étape d'aujourd'hui nous amène à l'ombre des grandes cheminées, celle du nucléaire, celle des centrales nucléaires, dans quelques instants, après une première pause.
Pour ma part, je considère que le nucléaire, puisque c'était votre question implicite, est une filière d'avenir.
Également la démarche Gigawatt. Qu'est-ce qui se cache derrière ?
Non institutionnelle, indépendante, envers et contre tout, sur les questions nucléaires en France.
La descente énergétique est inéluctable. Et pour s'y préparer, il faut mettre en place des mesures qui diminuent notre dépendance énergétique. Et il faut modifier nos comportements.
Sans énergie fossile et sans nucléaire, est-ce que c'est une utopie ? Sur la signature d'une convention entre le GEPA et l'ADEC 27, l'ADEC 27 est chargée d'une mission d'intérêt général.
JFK, Frédéric.
Frédéric, c'est moi.
donc le F de JFK.
Kevin.
Oui, la fin du trio, JFK, Kevin.
Et moi-même, Jérôme. Voilà. Frédéric.
Alors, donc nous avions cette petite idée d'émission dès le mois de juin, avant de partir en vacances. Et pendant que j'étais en train de me prélasser au soleil du sud, on m'a rapporté, parce que je ne l'ai pas entendu, une phrase qui a longtemps résonné à mes oreilles.
Notre choix d'avoir une énergie pas chère, abordable et en quantité est un choix stratégique pour la nation. Pour ma part, je considère que le nucléaire, puisque c'était votre question implicite, est une filière d'avenir.
Alors, pour sa part, M. Montebourg pense que le nucléaire est une filière d'avenir. Et étant en vacances avec quelques amis, plusieurs d'entre eux se sont tournés vers moi en connaissant ma fibre écologique, en se disant Fred... Le nucléaire est-il une filière d'avenir? Alors moi j'aurais répondu oui pour le retraitement sans problème, mais pour le reste c'est moins sûr. Et je me suis trouvé confronté à un ensemble de points de vue de gens qui étaient assez proches de moi et pour qui le nucléaire était une évidence qu'on ne pouvait pas remettre en question. Et ce point de vue-là m'a interrogé et ça a été le point de départ pour nous de notre réflexion. Donc on a commencé à construire une émission autour de ce thème en réfléchissant au nucléaire en France et comment on en était arrivé à cette image d'obligation du nucléaire et d'omniprésence. Faut bien voir qu'aujourd'hui le nucléaire représente en effet 80% de la production de l'électricité en France, mais c'est la France est le seul pays qui est dans ce cas-là et ce choix qui a été fait et un choix qui a été fait de manière un petit peu obscure et sans consulter l'ensemble des électeurs français.
Et donc une petite histoire du nucléaire s'impose. Hein.
Oui, parce qu'avant de rentrer, avant de se poser de la question de sortir du nucléaire, il a fallu y rentrer. Et si tout le monde a bien conscience que le général de Gaulle était à l'initiative de cette démarche, l'histoire se montre un petit peu plus complexe.
Les réacteurs de la chancelière s'éteindront en 2022. Les Français auront la lumière et les Allemands
du CO2. Un petit raté pour la première, c'est pas bien grave. On était prêt à vous passer un historique, donc une histoire du nucléaire. Et ça va venir tout de suite, quelques instants. Eh bien, ça va être une première occasion, de toute façon, que nos invités interviennent sur cette phrase de Montebourg. Ben, Jean-Marc. Hein.
Oui, ben, écoutez, la France est un pays... qui a une tradition centralisée, et donc on continue dans cette direction-là. Je dirais que, moi j'ai l'impression, si vous voulez, que le nucléaire, à l'avenir, qu'avait la construction des paquebots transatlantiques à l'époque du France, qu'avait aussi le Minitel, au moment où on a défendu le Minitel corps et âme au niveau français, dans notre société très centralisée, et finalement... On ne voit pas ce qui se passe autour du monde, autour de nous, et on ne voit pas les nouvelles technologies qui arrivent, et on s'arc-boute sur des technologies qui, finalement, à un moment donné, ne sont plus appropriées. Donc, je ne sais pas si le nucléaire a un avenir, mais ce que je vois me laisse entendre que ça me paraît assez compromis.
Mais alors, pourquoi Montebourg, aujourd'hui, qui, par ailleurs, c'est vrai, est ministre du redressement productif, tient ses propos? Est-ce que c'est sa préoccupation d'assurer, une fourniture énergétique à ces entreprises françaises? Ou bien, est-ce qu'il pense, au secteur nucléaire comme un secteur d'activité à part entière, voire même, une vitrine de l'industrie française, puisque on sait que, aujourd'hui, la France exporte son savoir, notamment en Chine?
La France exporte son savoir, on exporte moins d'EPR qu'on a exporté de centrales nucléaires. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de centrales d'EPR qui fonctionnent à ce jour. Alors, moi, c'est les mots utilisés, enfin, c'est le nom même du ministère de Arnaud Montebourg, c'est le ministère du
redressement productif.
Redressement, vous imaginez le mot redressement et le mot productif. Pour moi, c'est connote quand même une certaine vision de l'économie, et du social et du politique. Ça me paraît très centralisateur et c'est pas vraiment le monde, le type de société auquel j'aspire. Mais quand on nous parle, par contre, d'une production d'énergie pas chère, je voudrais juste rappeler, c'est qu'en 2005, lorsqu'on nous a vendu l'EPR, on l'a vendu avec un projet de produire le mégawattheure à 28 euros en 2005.
Et puis il fait que de monter.
En 2008, il est à 54 euros selon EDF. Et selon la Cour des comptes, aujourd'hui, il est à 70 et à 90 euros le mégawattheure. Alors, le nucléaire est la seule technologie au monde et de l'histoire dont le coût augmente au fur et à mesure qu'il y a une connaissance et un savoir-faire qui se développe. Alors que toutes les autres technologies, en général, au fur et à mesure que les technologies se développent, les coûts baissent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que finalement les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie éolienne, que ce soit l'énergie solaire photovoltaïque, mais aussi toutes les énergies renouvelables, ont un coût qui baisse, alors que le coût du nucléaire monte. Mmh.
Donc, Jean-Marc, je vous propose qu'on revienne. C'est vrai que j'ai manqué à mes devoirs et à mon savoir-vivre. Je vous ai pas présenté. Je pense que vous le ferez mieux que moi. Donc, vous êtes aujourd'hui membre et président donc de l'ALEC.
Non, faut rendre à César ce qui est à César. La présidence de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure, c'est Madame Rive, qui est conseillère municipale à Évreux. Moi, je suis le directeur. Par contre, je suis la personne qui a créé en 1995 l'association Heure Solaire.
Basée à Louviers.
Basée à Louviers et qui aujourd'hui emploie 8 personnes.
D'accord. Marc, peut-être une réaction pareille. Je manque encore à mes devoirs. Marc, citoyen. qui a souhaité et que j'ai demandé à qui j'ai demandé de venir justement réagir dans ce débat. Donc une réaction sur la phrase de Montebourg et cette filière d'avenir.
Bah oui, c'est très surprenant. J'ai l'impression que c'est une figure de style devant un journaliste parce que en tant que citoyen, qu'on s'intéresse un peu au sujet, toute source d'énergie a une source et le nucléaire. On croyait dans les années 70 que c'était inépuisable, comme d'ailleurs le pétrole il y a plus de 100 ans, 200 ans, mais c'est de l'uranium. L'uranium, il est de plus en plus recherché. Et ce sont des mines d'uranium. On en avait, je crois, en France, ça s'épuise. Aujourd'hui, on voit bien avec l'affaire du Mali que finalement, c'est très précieux qu'on envoie nos ingénieurs là-bas et qu'ils peuvent se faire attraper par les terroristes de tous bords. Et donc, en plus, donc on sait que c'est pas une filière d'avenir.
Un souci de pérennisation donc de la matière première. Je vous propose qu'on fasse une pause et qu'on revienne sur cet historique du nucléaire en France et pour voir dans quelle mesure vraiment il s'est ancré de façon inéluctable dans notre paysage.
Il faut remonter aux années 50 pour comprendre l'histoire de l'opacité politique et médiatique du nucléaire. En 1958, le général de Gaulle lance la France dans la fabrication de l'arme nucléaire et en 1960 explose la première bombe atomique française.
Nous avons voulu, naturellement, qu'une telle réalisation contribue d'une manière directe à écarter de nous la guerre. Mais en même temps, nous en faisons une base pour un développement industriel, un développement nouveau de l'énergie et par conséquent du progrès.
Pendant près de 20 ans, de 1955 à 1973, les fondations de la politique nucléaire civile s'élaborent de façon confidentielle au sein d'une commission, la commission Péon, composée de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, d'industriels comme André Danzin de Thomson, des dirigeants du commissariat à l'énergie atomique et d'EDF comme Marcel Boiteux, son directeur général à l'époque.
Ça a été considéré comme un scandale parce qu'il n'y avait que les gens du nucléaire. Mais il s'agissait de savoir ce que pensaient les gens du nucléaire pour que l'administration comprenne et ensuite conseille les politiques. Il y avait un désaccord fondamental entre les gens du ministère de l'Industrie qui pensaient qu'il fallait faire plus de nucléaire, les finances qui étaient contre que ça coûte quelque chose. Et je crois pas qu'il y avait des gens de l'environnement, je ne me souviens pas.
Fin 73 se présente une opportunité de passer à l'acte et de lancer la France massivement dans la production d'électricité d'origine nucléaire. Le conflit israélo-arabe entraîne la multiplication par 4 du prix du pétrole et rend la dépendance vis-à-vis des pays producteurs insupportable.
C'est passé un samedi matin. Je me souviens encore, le directeur général de l'énergie de l'époque, M. Jean Couture, me passe un coup de fil vers 9h30. À l'époque, on travaillait encore le samedi, du moins les patrons, vers 9h30, en me disant, écoutez, quel est le nombre maximum de centrales nucléaires que vous pensez être capable de faire, vous, en tant que client et ingénierie, et l'industriel en tant que fournisseur. Il me faut la réponse avant midi. Alors là, 7h. C'est un problème le samedi matin, donc coup de fil dans tous les coins, mon directeur de cabinet était là, téléphone, on alerte le directeur de l'équipement, on concocte tout cela, et vers midi, j'ai la réponse, midi moins 5, 6 ou 7 au maximum. Et nous nous sommes dit, on était en train de partir sur le rythme pour moi d'un ou deux par an, Couture va en réclamer 6 ou 7 aux finances pour qu'on finisse à 3 ou 4. Et ça a été une très grande surprise, pour nous en tout cas, d'apprendre que la décision politique avait été d'aller vers le maximum, c'est-à-dire 6-7.
J'avais prévu qu'il y aurait un débat au Parlement, à la rentrée parlementaire, qui devait avoir lieu précisément pour la session de printemps, quelques semaines plus tard. Et puis, le président Pompidou est mort. Nous avons été engagés dans l'élection présidentielle qui a suivi et le débat au Parlement n'a pas eu lieu dans la session de printemps. Plus tard, c'est-à-dire à partir de la rentrée d'octobre, le président de la République et le Premier ministre, qui était alors Jacques Chirac, qui m'avait succédé à Matignon, ont jugé qu'il y avait d'autres décisions, que cette décision était acquise, et qu'il y avait d'autres débats plus urgents à présenter au Parlement.
Voilà, donc d'autres débats plus urgents à passer au Parlement en 1974. C'était la mort du président Pompidou. Et en fin de compte, cette décision de s'investir pleinement dans la filière nucléaire a été prise tout au long de ce début d'année avec un président qui était mourant. C'était soit le résultat de travaux menés depuis longtemps, entamé notamment par le général de Gaulle à travers le plan Péon. C'est lui qu'on entend au début du reportage. Dans cette commission, il y avait Monsieur Boiteux, qu'on entend également, qui est le président de l'EDF et qui a un regard assez amusant à la fois sur la société et sur le pouvoir des politiques à comprendre le nucléaire. Entre guillemets, au-delà de ce que j'ai gardé, il explique bien que le nucléaire est quelque chose de trop compliqué pour les politiques. Et à la fin, le dernier intervenant, c'est Monsieur Messmer, qui était président par intérim et qui, lui, a laissé passer les 7 centrales, ce choix-là, mm-hmm. et ce choix qui a été fait sans aucun regard démocratique derrière, ni à l'Assemblée, ni au mois d'avril pour cause de décès du président, ni au mois de...
Donc on a vraiment le sentiment, voilà, d'une décision de cabinet, de porte fermée, sans débat, etc. Marc, est-ce que tu souhaites réagir?
On pensait de jeunes citoyens, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a découvert, notamment dans les années 70, quand on était jeunes. Il y a eu la crise du pétrole, 73, c'était affreux, ça augmentait, on n'avait jamais vu ça. Et c'est vrai que quand le pouvoir en place nous a dit, on a une solution de rechange, on a la France, on a des idées, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, qu'on nous a présenté le nucléaire, c'est quelque chose qui n'était pas connu et ça s'est présenté comme une solution miracle à ce moment-là en se disant c'est quelque chose qui s'épuisera jamais, donc on entend ça comme ça, c'était formidable, ça pollue pas, on n'avait aucune idée des conséquences négatives. Moi en tant que jeune, ce qui m'a le premier posé question, c'était ce qui se passait à Plogoff où il disait en breton nuclil nan trougarez, le nucléaire non merci. On se demandait pourquoi ils n'en voulaient pas, mais c'était leur action dans les médias a permis de se poser des questions, quoi.
Kevin.
Oui, alors justement, j'avais une petite question. Je voulais savoir aujourd'hui quels sont les points qui sont prouvés, les points négatifs qui font que nous devons stopper le nucléaire.
Jean-Marc, peut-être une réponse.
Déjà, je crois que le nucléaire a été construit sur plusieurs mensonges. Le mensonge du coût, là, j'en ai parlé tout à l'heure. Le mensonge de l'indépendance énergétique. Alors, j'en parlais en quelques mots. Lorsqu'on importe du pétrole des Émirats arabes, on parle de dépendance énergétique. lorsqu'on importe du gaz de Russie, on parle de dépendance énergétique. Et quand on importe de l'uranium de pays étrangers, on parle d'indépendance énergétique. Donc l'indépendance énergétique, c'est un grand mensonge. Un autre mensonge aussi, c'est celui de... On fait croire aux Français que la production nucléaire représente un pourcentage important de la consommation d'énergie. Non, c'est un pourcentage important de la consommation d'électricité. Oui. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on sait produire de l'électricité autrement. Donc, c'est sur cet ensemble de mensonges, je crois que le nucléaire s'est construit et qu'aujourd'hui, tout s'éclaire quoi, pour tout le monde.
Mais
quoi.
Pour revenir à l'indépendance, c'est une technologie aujourd'hui que les Français maîtrisent et donc ils n'ont pas à attendre d'autres pays qui ont développé cette source d'énergie, des brevets, etc. Par ailleurs, on estime la possibilité d'extraire de l'uranium dans de bonnes conditions à 200 ans à peu près, sachant que la France a des intérêts dans bon nombre de pays où il y a de l'uranium. Est-ce qu'on peut parler de ce point de vue-là, malgré tout, d'indépendance?
Mais, alors, si vous pensez que le Mali fait partie de la France, alors à ce moment-là, oui, c'est de l'indépendance. J'ai entendu un mot tout à l'heure... J'ai entendu un mot tout à l'heure qui m'a fait un peu sursauter. J'ai entendu parler de terroristes. Alors, effectivement, quand ce sont des gens qui s'élèvent contre les politiques de pays étrangers chez eux, ce sont des terroristes. Mais de la même façon que les résistants en France étaient des terroristes pour les Allemands. Est-ce que ce sont des terroristes? Dans quelles conditions on exploite l'uranium par rapport aux populations là-bas?
Frédéric?
Oui, alors moi, non, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. En plus, par rapport à la dépendance au pétrole, le fait d'avoir développé le nucléaire ne nous a pas rendu moins dépendants au pétrole. On est toujours très dépendants au pétrole. La part du pétrole est restée très importante en France, soit pas pour la production d'électricité, mais pour le pétrole. Donc, cet argument d'autonomie, d'indépendance énergétique, il saute. En fin de compte, avec l'arrivée du nucléaire, c'est la consommation d'électricité qui a explosé, mais la consommation de pétrole n'a pas diminué.
Kevin, peut-être une réaction
C'est vrai que pour le nucléaire, on pouvait quand même se poser une question d'un point de vue stratégique, tout simplement, car justement, Fred, tu parlais de pic pétrolier. Il y a quand même plusieurs analystes qui parlent justement qu'on va arriver à une sorte de terrain, en fait, une forme de guerre au niveau des ressources. Et est-ce que justement la France, là, sur ce point de vue-là, sur le nucléaire, est-ce qu'elle n'a pas un atout?
Marc, peut-être une petite réaction?
Même si le Qatar, bien sûr, déjà investit lourdement actuellement en France, dans l'économie française, peut-être qu'on aura des avantages pour le gaz. Mais est-ce que le nucléaire, quand même, ne nous permet pas d'avoir un point stratégique là-dessus?
Alors ma réaction, elle va être un peu à l'envers. C'est que ce qu'on nous avait pas dit sur le nucléaire, c'est que il y a des effets qui sont complètement pervers et négatifs. Moi, en tant que citoyen, quand je me suis promené du côté de Port-Racine et du côté de La Hague, je savais pas, je voyais pas. Et puis j'ai vu cette grande usine, je me demandais ce que c'était. Et il y a eu des émissions qui sont passées à la télévision sur des chaînes, différentes chaînes, qui nous ont montré comment étaient gérés les déchets. On ne savait pas au départ qu'il y aurait effectivement des problèmes de ce côté-là. Quand ma femme a laissé, enfin, on voyait les gens se baigner dans la mer de ce côté-là-bas, c'est un endroit magnifique, Nedjoubourg, tout ça, se baigner là-bas, c'était magnifique. Et on a appris, et beaucoup de mesures ont été faites dans les médias, que c'était assez radioactif. Les pêcheurs qui sont là-bas savent que ce qu'ils ont à pêcher est radioactif. Donc ça pose des questions et ça pose des questions de savoir combien de temps ça va durer. Et pour terminer là-dessus, d'autres émissions, où sont restockées, où sont casées ces déchets, les émissions que nous a présentées sont assez effrayantes. Ils sont sous des terrains de foot, sous des lotissements, des tas de choses comme ça, d'accord. Ils sont pas terrains, donc c'est effrayant.
Je propose une première pause musicale et on se retrouve dans 3-4 minutes. Restez avec nous sur Principe Actif.
I wish you breathing, and I wish you star. Only for long enough, long.
We used to get closer than this. Is it something you miss? We used to be closer than this. We used to be closer than.
Des réactions très marquées, très tranchées sur le nucléaire, mais au bout du compte, pourquoi est-ce que ce serait pas une filière d'avenir? Est-ce que aujourd'hui les énergies renouvelables permettent vraiment de se substituer complètement au nucléaire et répondent à tous nos besoins? Parce qu'on a quand même un besoin énergétique par rapport à notre mode de consommation, et aujourd'hui le nucléaire nous apporte ce confort, n'est-ce pas Frédéric?
Et voilà une réponse bien française où le nucléaire est archi dominant et faut bien voir déjà qu'actuellement au niveau mondial les énergies renouvelables sont au niveau production d'énergie devant le nucléaire largement hein, le choix qui a été fait en France est un choix réellement franco-français on a mis tous nos œufs dans le même panier, on a mis tous nos œufs dans le nucléaire, d'une telle manière où aujourd'hui on n'ose plus penser l'avenir autrement.
Donc rendu indispensable. Mais est-ce qu'il est vraiment aujourd'hui indispensable? Est-ce qu'on peut pas imaginer autre chose?
A priori, actuellement, sur la surface du globe, il y a plus de pays qui se passent du nucléaire, beaucoup plus. Il n'y a qu'un pays qui est dans la logique qui est la nôtre, c'est la France. Il y a d'autres pays qui ont développé le nucléaire, mais dans des parts beaucoup moins importantes. Et même en France, même avec les choix qui ont été faits, il faut bien voir que les choix qui ont été faits, ils ont été faits dans les années 75, avec des centrales nucléaires qui ont été construites à la suite et avec un parc qui est vieillissant. Donc, ces choix-là, ils sont à faire maintenant. C'est soit on renouvelle le parc, soit on fait autre chose.
Alors, comment? Quels sont ces choix?
Alors, ces choix, ils sont nombreux, ils sont variés. Ça va dépendre aussi un peu de chacun. Chacun va pouvoir, c'est un peu en fonction de ses croyances, mais pas seulement de ses croyances. On peut aller se renseigner et il existe des gens qui ont créé des scénarios pour envisager la sortie du nucléaire, mais dans leur scénario, la sortie du nucléaire est apparue en même temps que la sortie des énergies fossiles comme une évidence. C'est les gens de Negawatt qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer.
Me dis pas que je vais devoir éteindre mes lumières, enlever tous mes appareils où il y a des veilles, etc. C'est pas possible.
Pour vivre la préhistoire.
Il y a deux choses. Le scénario Negawatt, on les a rencontrés, ils nous ont répondu. C'est un scénario. On les a entendus, on les a écoutés, on n'a pas été forcément tous convaincus.
Alors tu m'as parlé de Negawatt. C'est quoi ce machin?
Alors le Negawatt, c'est le watt qui n'est pas consommé. C'est-à-dire que ça va être, c'est un scénario qui est construit sur l'économie d'énergie,
sobriété.
La sobriété énergique. C'est-à-dire qu'on va prendre appui sur toute cette énergie qu'on ne va plus consommer. Et cette énergie qu'on ne va plus consommer va nous permettre progressivement de sortir du nucléaire, de sortir des énergies fossiles.
Donc on consomme moins, on produit moins. Jean-Marc.
Oui, je vais dire consommer moins d'énergie, ça ne veut pas dire vivre moins bien.
Oui.
La politique qu'on a eue de développer le nucléaire a fait que finalement ça a été... grosse production d'électricité qu'il a fallu évacuer et vendre. Et donc, on a absolument fait l'impasse sur la maîtrise de l'énergie. Et quand on fait les comparaisons avec l'Allemagne, on nous dit oui, mais l'électricité française est moins chère que l'électricité en Allemagne. Oui, mais en contrepartie, la politique allemande a fait que finalement, les Allemands moins cher leur électricité, consomme 25% de moins d'électricité que le français.
Si on ne prend pas en compte le chauffage.
Oui,
hors chauffage.
Le problème du chauffage électrique, c'est qu'on a vendu du chauffage électrique dans les années 70, dans des immeubles qui n'ont pas été forcément construits très bien isolés. Et entre autres, on voit aujourd'hui des gens qui sont dans la précarité énergétique, qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. Et donc, il revient aux services sociaux et aux collectivités locales de payer finalement le coût du nucléaire, le coût de l'électricité nucléaire. Alors, quel est l'intérêt, le bénéfice dans cette...
Alors, avant de donner la parole à Marc, je vous propose qu'on écoute justement un petit extrait de la conférence, eh bien, de l'association, des deux représentants de l'association Négawatt. Kevin.
Alors, non, c'est pas un petit extrait de la conférence, mais tout simplement, on a été voir Vincent Legrand, le directeur de l'Institut Négawatt,
qui est en fait. C'est pas le directeur, c'était l'intervenant, mais.
Non.
C'est sans nous contredire.
c'est le président de l'Institut Négawatt, et il y a l'association Négawatt. Et en fait, l'Institut Négawatt est chargé, en fait, de faire. De promouvoir, de vendre les études et aussi de former en fait les différents acteurs à cette problématique et à ce nouveau scénario. Donc nous sommes allés le voir et on lui a posé la question à propos de la phrase de Montebourg.
C'est sûr qu'elle a de l'avenir, ça c'est certain. Maintenant, ça dépend si on parle de la production d'électricité ou si on parle du démantèlement et de la gestion des déchets. Parce qu'au niveau gestion des déchets, elle a plusieurs dizaines de milliers d'années d'avenir. Donc ça, c'est certain qu'elle a de l'avenir dans ce sens-là. Maintenant, en termes de production d'électricité, nous, on considère qu'il n'y a pas d'avenir. Quand on se projette au niveau international, on voit que les principaux protagonistes du nucléaire sont en train d'en sortir progressivement. Le Japon a annoncé il y a quelques jours qu'il se mettait en phase de sortie, à la suite de la Belgique, de la Suisse et de l'Allemagne. Donc on est un peu le dernier dinosaure à vouloir utiliser, alors pas le fossile là pour le coup, mais le fissile. Quoi. Donc ça nous pose des gros soucis. On considère que l'avenir, je pense que ça les Allemands l'ont compris depuis longtemps, l'avenir en termes d'emploi, il est beaucoup plus, parce que je pense que c'est ça que Montebourg voulait dire, que le ministre de l'Innovation Productive voulait dire, l'avenir il est beaucoup plus dans les énergies renouvelables et également la maîtrise des consommations d'énergie que dans la filière nucléaire. On s'est rendu compte.
Marc, ça t'inspire quoi, ces propos?
C'était à propos de cette agence qui distribue de l'électricité, qu'on appelait EDF, qui avait été nationalisée avant et autres. Il y a quelque chose qui m'interroge. Moi, j'ai vu mes parents qui, eux, se chauffaient au feu de bois et autres et cheminées à serre. Ont refait leur maison et on leur a dit, mettez du chauffage électrique.
Tout électrique.
Tout électrique, oui. Et bon, ils ont eu des radiateurs qui étaient pas des petits radiateurs électriques, c'était bien, donc c'était un gros investissement. Mais la question que je me pose, EDF a été privatisée, donc il y a automatiquement toute entreprise privée doit fournir des services, mais également faire des profits. Et ils sont des véritables commerçants, ils essayaient de vendre beaucoup de choses à l'électricité, ils ont de l'électricité à vendre. Et moi, ce qui m'ennuie c'est que dès qu'ils sont passés privé, et la première chose qu'on a eue, c'était coup de fil, au bout de 15 jours, vous n'avez pas payé votre facture, il faut le payer rapidement et autres. Donc, il y a bien eu des Robin des Bois, j'en ai entendu parler. Ça, c'était une première chose. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que, en fait, comme ils sont marchands et qu'ils vendent de l'électricité, ils vont vendre, par exemple, des chauffages électriques aux personnes. Et combien de chauffages électriques dans les maisons? Mais la question que je me pose, moi, l'avenir, c'est pas l'électricité nucléaire et autres. L'avenir, c'est les économies, c'est la recherche. Il y a bien, et je l'entends en tant que citoyen, des solutions de rechange sur lesquelles on cherche, mais cette entreprise vend de l'électricité qu'elle produit nucléaire, et je ne suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup de recherches sur le solaire, l'éolien et autres.
Quels sont les moyens alloués à d'autres recherches?
À la recherche, oui.
Alors, j'entends bien cette sobriété, cette efficacité énergétique, mais... L'objectif aussi recherché par l'État français, est-ce que c'est pas aussi de se conformer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre? Parce que rappelons-nous quelques phrases, notamment d'un ancien président.
Les Danois... Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Donc, il y a, j'ai envie de dire, pas tout à fait une contradiction, mais quasiment entre un objectif de réduction de gaz à effet de serre, une recherche de sobriété, d'efficacité énergétique pour changer les sources. Après ça, j'entends bien que On a affaire à un État très centralisé qui maîtrise le développement nucléaire et le maintien. Mais quel est le rôle des territoires aujourd'hui, Jean-Marc ?
Moi, si vous voulez, aujourd'hui, la question de sortir ou pas sortir du nucléaire n'est finalement pas vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout quel intérêt ont les territoires au développement du nucléaire. Alors là, la question, elle se pose autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système centralisé où les moyens de production sont dans les mains de quelques-uns, les bénéfices vont dans les mains de quelques-uns. Il y a des territoires qui se sont posés des questions, je veux dire, à l'image de ce qui s'est passé à Güssing, en Autriche, et qui se sont demandé, mais et si nous devenions nous-mêmes producteurs d'énergie à partir des énergies renouvelables, si on réfléchit à l'économie d'un département comme le département de l'Eure, ce sont des millions d'euros qui sortent tous les ans, voire plus, vers d'autres territoires, et donc qui appauvrissent le territoire. Alors que le territoire possède des ressources en vent, des ressources en bois, des ressources solaires, pourquoi ne mobiliserions-nous pas ces énergies renouvelables pour produire, et produire, si possible, comme ça s'est passé à Montdidier, à partir d'investissements publics.
Alors justement, Jean-Marc, est-ce que pouvez-vous nous dire, et d'ailleurs le dire aussi aux auditeurs, quelle est la différence en fait entre le Grand Agglo d'Évreux et Montdidier ? Qu'est-ce qui fait qu'à Évreux, on n'a pas cette indépendance énergétique ?
Alors bon, il y a une histoire différente, c'est-à-dire qu'à Montdidier, il y a une régie municipale, et puis peut-être un maire qui, du fait qu'il y avait une régie municipale, a été sensibilisé par la production d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme, qui est aussi hein, vice-président du Conseil général, hein, donc c'est pas non plus un petit élu de base, quoi. Hein, elle savait de quoi elle parlait, et en plus, vice-président du Conseil général en charge de l'économie, donc elle savait compter. Et quand des sociétés éoliennes sont venues la voir pour lui proposer d'installer une centrale éolienne chez elle, on lui proposait finalement des revenus de l'ordre, je crois, de 1 000 ou 10 000 euros par éolienne. Et elle a vite fait les calculs et finalement elle a investi dans un parc de 3 éoliennes. Et ce sont 100 000 euros par éolienne et par an qui reviennent dans l'escarcelle de la commune. Et que fait-elle avec cet argent ? Eh bien, finalement, elle investit dans la rénovation des bâtiments publics. Elle investit dans sa régie municipale d'électricité pour la moderniser. Elle investit dans d'autres sources de production d'énergie renouvelable. Et elle redistribue à ses concitoyens, sous forme de subventions, des aides pour pouvoir rénover leurs bâtiments ou pour pouvoir investir dans les énergies renouvelables. Et c'est ainsi que sur un territoire comme la commune de Montdidier, mais d'autres territoires comme ceux-là sont dans cette démarche-là. Il y a la communauté de communes du Menet, il y a dans la Drôme, il y a Biovallée, mais je crois qu'aujourd'hui, on passerait beaucoup de temps, si je devais nommer tous ces territoires qui se mettent en marche. En fait, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas se réapproprier la production de l'énergie, de la relocaliser ?
Alors, je vous propose justement qu'on continue d'en débattre, qu'on marque une petite pause musicale, et qu'on continue à en débattre tout de suite après. Raymond Didier, l'Eldorado, la vitrine des collectivités territoriales vis-à-vis de l'énergie maintenant. Des articles dans Le Monde, tout le monde cite, tout le monde fait référence à Raymond Didier. Très bien. Bon, rappelons quand même, c'est une collectivité plutôt rurale. Bah, après tout, ils revendent de l'énergie à ERDF. Alors, je suis le détracteur. Hein. J'aime pas trop les modèles. Je vais, voilà. Alors, est-ce que c'est une possibilité vraiment, l'autonomie énergétique, produire de l'énergie localement, Frédéric?
Alors moi, ce qui me paraît vraiment intéressant dans l'exemple de mon Didier, ce n'est qu'un exemple, mais c'est que quand on veut, on peut. Et cette volonté du maire de Montdidier de se lancer, de s'investir réellement dans la production d'énergie renouvelable. Alors c'est vrai qu'il y a une, mais
c'est juste, ce n'est c'est pas juste simple une histoire que, de volonté politique.
Voilà. Alors c'est un point de départ. Je veux dire, si on n'a pas cette volonté là au départ, on ne fera rien. Après, tu vas soulever le problème de la distribution. Mais le problème de la distribution, il est dans un état où actuellement la production est centralisée, donc la distribution est centralisée. Le problème de Montdidier, les choses vont évoluer si ce genre d'expérience, c'est une expérience, se développe ailleurs.
Est-ce Kevin, que Fred, tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait de régie énergétique à Montdidier qu'ils ont chez eux et qu'il n'y a pas forcément autre part?
Alors là, je vais peut-être laisser la parole à
Jean-Marc.
À Jean-Marc.
Oui, bah si vous voulez, au sortir de la guerre. La production d'électricité, elle était complètement décentralisée. Bon, c'était ou bien des collectivités locales qui, comme pour la production de l'eau, hein, qui avaient des régies municipales qui produisaient leur énergie. Et puis vous aviez des entreprises privées. Et à la sortie de la guerre, il y a eu une nationalisation des systèmes de production d'électricité. Et seules quelques régies municipales, il y a Montdidier, mais il y a aussi Elbeuf, hein, régie municipale d'électricité d'Elbeuf, qui produisent l'électricité et la revendent à leurs habitants.
Donc concrètement, nous, par exemple à Évreux, comment on pourrait accéder à ce statut-là?
Alors, moi j'ai envie de dire, finalement, ce que les hommes, les politiques ont su faire, ils sont aussi capables de le défaire. C'est-à-dire que si un jour on pense que le système centralisé n'est plus un système qui répond aux besoins pour des raisons économiques et pour des raisons sociales, pour des raisons écologiques, environnementales, à nos besoins, on peut changer les lois.
Donc, oui, parce que je crois que l'évolution, la disparition de ces régies, ça a suivi le mode de production. En fin de compte, s'il y a une volonté locale de rentrer à nouveau dans la production, il y aura forcément une adaptation au niveau de...
Mais on a déjà des choses très similaires qui existent. C'est-à-dire quand on a un établissement public qui gère du traitement de déchets et qui fabrique de l'énergie à partir de technologies, de fin de système, de process, il revend à EDF, il empoche de l'argent, souvent important. On est quasiment à Montdidier, sauf que bon, aujourd'hui, cet établissement public réinvestit pas dans l'isolation, etc. Mais on n'en est pas loin, après tout.
Et vous parlez de quel système public?
Bah, par exemple, le syndicat de traitement de déchets sur le territoire d'Évreux.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous portez la question sur la production d'énergie, finalement, ne se limite pas à la production d'électricité et que on peut produire de l'énergie, on peut produire de la chaleur à partir de déchets, mais aussi à partir de la biomasse, à partir d'autres systèmes. Et je voudrais quand même insister sur la notion suivante. On a parlé beaucoup de production d'énergie, évidemment, puisque le thème était la production d'énergie à partir du nucléaire. Mais quel gâchis nous faisons? On a développé quasiment aucune politique de maîtrise de l'énergie vraiment efficace. Maîtrise de l'énergie, c'est d'abord travailler sur nos besoins. On a organisé un concours sur la communauté d'agglomération Senneur avec des volontaires, donc concours famille à énergie positive, et là, donc les familles s'étaient engagées à partir de conseils qu'on leur donnait, à partir d'éco-gestes, de réduire leur consommation. Et rien qu'à partir d'éco-gestes, ils ont réduit de 25% leur consommation d'énergie.
25%. Mais si je reviens...
C'est considérable. Parce que je voudrais juste pour terminer. La publicité faite pour nous faire consommer de l'énergie, l'argent mis dans la publicité, est beaucoup plus importante que l'argent mis pour nous aider à changer nos comportements. Donc, si un jour on veut vraiment réduire nos consommations d'énergie, on en a les moyens. Donc, réduire nos consommations, retrouver de l'efficacité, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un frigidaire qui va consommer une certaine quantité d'énergie, aujourd'hui, on peut investir dans des frigidaires qui vont consommer beaucoup moins d'énergie. Changer les lampes, les moteurs dans les entreprises. Enfin, je veux dire, l'efficacité énergétique est aussi un élément pour réduire nos besoins de production.
Mais si je reviens plutôt à la production, enfin le risque et la tentation, c'est je fabrique de l'énergie, enfin de l'électricité à partir donc d'une source renouvelable. On a parlé des déchets, bon le système biomasse, etc. Mais en même temps, je me dis je revends cette électricité à EDF. Excusez-moi le terme, mais ça devient quasiment une pompe à fric. Et je me préoccupe pas de réinvestir donc dans de l'isolation, dans de la pédagogie, etc. Frédéric.
Oui, mais parce que là, tu restes dans le système existant. Cette part EDF, enfin boiteux, il est dans la commission de départ. C'est eux qui ont mis la main mise sur la production d'électricité au-delà de ça d'énergie. Parce que le premier problème après cette décision-là, c'est qu'en effet, tout l'argent qui a été mis vers le nucléaire, il n'a pas été mis vers d'autres choses. On aurait pu faire du nucléaire et en parallèle de l'isolation de bâtiments. On sait que 80%
mais
des bâtiments.
Je suis producteur d'électricité. Qu'est-ce qui me pousse à réinvestir donc, aujourd'hui dans l'isolation, dans la pédagogie, etc.
Parce que actuellement, le système, c'est un système centralisé d'EDF. Quand on prend le modèle de Montdidier, c'est une collectivité locale qui, elle, a intérêt. C'est pour ça que pour moi, c'est un choix politique. C'est un choix politique plus qu'un choix. C'est pas un choix industriel. Quand Arnaud Montebourg parle de ça, lui, il parle d'un choix industriel. Pour moi, il doit y avoir un choix politique, et ce choix politique va forcément changer les choses, changer la donne.
Marc.
Moi, j'entends ça. Même pour que les collectivités locales ou les individus puissent produire de l'électricité, il faut des moyens. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle de la recherche. Qui recherche des systèmes alternatifs qui soient efficaces et fiables? Moi, j'en vois certains. On a un conseiller général de l'Eure qui est assez drôle, qui fait des économies la nuit d'électricité en ne déclarant pas, et surtout qui se déplaçait en vélo électrique.
Alors, on donnera pas de nom.
Je n'ai pas donné de nom, non. De l'Eure, puisqu'on est dans le local quand même. C'est chez nous que ça se passe. Ouais. Et ce vélo électrique, moi, il m'a interpellé. Et je me suis dit, mais en travaillant un peu plus sur la façon de produire de l'énergie, comme on avait des dynamos quand on était môme, qu'on faisait du vélo, et on produisait notre propre éclairage. Il y a plus de dynamo sur les vélos. J'ai acheté des vélos Bifi. Il y a plus de dynamo. Faut acheter les piles. Enfin, ça revient peut-être, mais dans le commerce, en tant que citoyen.
De l'énergie aussi pour faire rouler le vélo. Il faut bien manger. Donc, il faut des bœufs, etc. Il y a toutes sortes de choses, hein. Donc, finalement, on arrive toujours à un équilibre d'énergie. Mais j'aimerais quand même qu'on ressente le débat plus sur Évreux. Et j'aimerais savoir d'ailleurs même l'action concrète de l'ALEC 27, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure. Qu'est-ce que vous donnez en fait aux citoyens comme formation, même comme idée ou comme aide même financière pour pouvoir peut-être rentrer dans cette prise de conscience collective qu'on peut pas tout simplement consommer à tout va et en laissant rien derrière nous pour nos futurs enfants. Qu'est-ce que vous donnez?
Alors nous, bon, j'allais dire déjà, on essaie de faire passer l'information hein, sur les différentes technologies, sur la maîtrise de l'énergie, etc. Il y a sur le territoire d'Évreux un espace info-énergie qui est animé par Habitat et Développement où les citoyens peuvent venir chercher de l'information neutre, indépendante et gratuite sur la façon d'isoler sa maison, sur quelle technologie utiliser, quelle est celle qui est la plus pertinente, sur les aides qu'ils peuvent avoir. Donc ça, le territoire français aujourd'hui est couvert de plusieurs espaces, enfin d'un nombre important d'espaces info-énergie. La population ne connaît pas forcément notre existence. Qu'est-ce qu'on fait encore aussi sur l'agglo d'Évreux? Sur l'agglo d'Évreux, on a signé une convention avec l'agglo d'Évreux pour développer une action de conseiller en énergie partagée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conseiller en énergie partagée? C'est un ingénieur qui est au service des petites communes de moins de 10 000 habitants, parce qu'une une ville comme Évreux a les moyens de se payer un ingénieur thermicien pour gérer ses consommations, ses abonnements et puis ses techniques. C'est-à-dire qu'une petite commune ne peut pas. Le conseiller en énergie partagée, lui, va pouvoir accompagner les collectivités locales.
Alors, donc j'ai ma réponse, ça y est. J'ai produit de l'électricité, je l'ai vendu à EDF, mais je ne fais pas que ça, ça y est.
Non, mais non.
Alors,
vous n'avez pas vendu à EDF. Hein.
Non. Je suis désolé que le temps passe. Je vous propose chacun quelques mots pour terminer. Frédéric.
Quelques mots pour terminer. Une heure, on n'a pas tout dit, on n'a même pas dit grand-chose. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que la première chose, c'est chacun individuellement y penser. Alors le seul conseil que je vais vous donner, c'est l'électricité, c'est pas facile. Il existe un distributeur d'électricité qui s'appelle Enercop, qui peut remplacer l'EDF et qui s'engage à ne fournir que de l'électricité issue de des énergies renouvelables. Je ne sais pas si c'est de la publicité, bon, c'est une proposition.
Bon, elle est pas, pardon, le principe actif n'est pas parrainé.
Marc,
quelques mots pour terminer.
Écoutez, voilà la question que je pose. C'est vrai que, en tant que citoyen, ce que j'entends est très intéressant. La relocalisation est aussi intéressante. Les économies, ça c'est essentiel. Pendant la guerre, on était obligé d'en faire. Donc, être écologiste, c'est interroger ses grands-pères et ses grands-mères quelquefois et faire de l'économie sur beaucoup de choses. On économisait jusqu'aux allumettes. Mais je pense que la recherche va aider et c'est là qu'il faudrait que la recherche aille plus loin parce qu'on pourra trouver quelque chose.
Jean-Marc, quelques mots pour terminer aussi.
Oui, je voudrais rassurer Marc. Le monde n'est pas fait que de la France. Hein. Et donc, partout dans le monde entier, il y a des milliers de start-up, d'entreprises, de chercheurs. Et je peux te dire que ça va, enfin, à mon avis, ça va très vite. Ça va très très vite. Et les derniers mots que je voudrais dire, pour moi, l'avenir appartient à la relocalisation de la production d'énergie, pour aussi une question d'équité sur le territoire français, équité entre les différents territoires.
Kevin ?
Oui, alors, c'était une émission plutôt intéressante, même si on a très peu été dans le fond, finalement, et ça mériterait d'ailleurs d'autres émissions là-dessus, pour qu'on puisse vraiment dire d'autres choses. Mais j'ai un petit peu peur qu'on a fait un petit peu du lobbying pour les énergies renouvelables. Est-ce qu'on traite souvent d'ailleurs les autres acteurs?
J'ai pas rempli mon rôle.
J'ai l'impression que quand même.
C'était du 4 contre 1. Hein.
J'ai peur que ça change un petit peu de ce qu'on voit sur le télé national.
Ok.
C'est vrai que ça change de décor.
Très bien. Merci beaucoup à nos invités, Marc, Jean-Marc, à nos animateurs.
Bonsoir à tous.
Donc Kevin, Frédéric. Voilà. Prochaine émission, on vous l'avait. Bon.
Des idées, alors juste un support sur le site internet, des idées, des liens, tout ce qui nous a servi à construire cette émission. Notre but à nous est surtout de vous informer et de que chacun y cherche ses idées. Donc on va essayer de vous mettre le maximum de choses, le site de l'ALEC, le site de Négawatt, des lectures.
Alors des conseils de lecture peut-être ?
Un petit conseil. Alors moi vraiment, alors c'est vraiment mon côté... c'est pas le plus facile, mais il y a Alternative Économique qui a sorti un hors-série poche sur l'énergie autrement et on y apprend pas mal de choses.
Jean-Marc, un conseil de lecture ?
Oui, peut-être pour être un peu moins sérieux, et encore que, hein, les articles sont très très sérieux, mais c'est agrémenté de dessins humoristiques. Moi, j'invite les gens à acheter le numéro spécial de Charlie Hebdo sur le nucléaire, qui est vraiment très intéressant si on veut connaître un petit peu l'histoire de cette filière.
Très bien. Bon, moi, mon petit conseil de lecture, mais Marc, peut-être que tu en as un, mais sur les...
Mais oui, pour les jeunes qui lisent Phosphore, par exemple, lycéens, étudiants et autres, il y a un article sur la troisième révolution industrielle proposé par un économiste américain qui s'appelle Jeremy Rifkin. Bon, c'est synthétique, mais c'est quand même assez intéressant d'une vision positive de la transition énergétique.
Mon conseil de lecture, mais Kevin, excuse-moi.
Moi, ce serait plutôt un déconseil. Je vous déconseille de lire le scénario Négawatt 2011, car c'est un énorme pavé, c'est plutôt imbuvable. Même la conférence était quand même plutôt difficile d'accès, je trouve, pour les citoyens. Je vous conseille plutôt d'aller vers sur leur site internet et plutôt de voir les résumés et leurs fichiers PDF qui synthétisent plutôt très bien leurs propos.
Alors nos conseils de lecture, bien sûr, seront sur la page du site internet de Principe Actif qui nous est réservé. Moi, je vais en ajouter un. C'est le livre d'une aventure, donc un jeune homme, Corentin de Châtelperron, qui a construit un voilier avec uniquement donc en jute. Il a vécu au Bangladesh, il a trouvé que là-bas il y avait une grosse production de jute, et donc il se dit mais pourquoi est-ce que les bateaux des pêcheurs seraient forcément dans des matières synthétiques? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire avec des fibres naturelles? Donc eh ben il a relevé le défi et il a rejoint, il a fait en fait dans son petit voilier le Bangladesh jusqu'à la Ciotat. C'est impressionnant. Donc je rappelle Corentin de Châtel-Perron, et son livre s'intitule L'aventure de Taratari, et c'est aux éditions La Découvrance. Je vous remercie tout.
J'aurais juste rajouté un petit mot pour quand même vous inviter à écouter l'émission de notre DJ du soir, demain 12h30, un privé à Babylone.
Et de façon générale sur Principe Actif. Donc merci à tous, bonne soirée, la prochaine.
Au revoir à tous.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Un air de vie.
D'abord, ce n'est pas contradictoire, c'est exactement ce qui a été dit dans le débat de la présidentielle. Et par ailleurs, c'est une filière d'avenir parce que nous allons en garder au moins 50%.